Voilà, je vous propose donc de continuer notre série sur l'Église, mais j'aimerais juste vérifier si vous êtes tous bien connectés avec ce qui est dit, si vous avez bien suivi ce qui a déjà été énoncé. Donc, vous sortez vos feuilles, on va avoir une petite interrogation. Voilà. Alors, on va pas faire ça comme ça, mais vous savez, quand je suis arrivé au tout début de mon ministère et que j'ai eu l'étude biblique, personne ne parlait, ne disait pas grand-chose, et je ne savais pas ce qu'ils pouvaient comprendre de ce que je pouvais dire. Et le lundi qui a suivi, je leur ai dit « Est-ce que quelqu'un peut me redire ce que nous avons dit la dernière fois ?» Alors, je ne sais pas si c'est la timidité ou quoi que ce soit, mais personne n'a répondu. Alors, je me suis mis à pointer de l'index certaines personnes. Je dis « Toi, est-ce que tu pourrais me dire ?» Et là, j'ai eu l'impression que les personnes se sont redressées sur leur chaise et que, du coup, l'attention a grandi. Alors, je vais faire la même expérience là, maintenant. Nous avons eu un premier message où il a été dit « Hors de l'Église, point de salut ». Et l'importance de cette déclaration, c'était pour mettre en relief le fait que entre le salut et l'Église, il n'y a pas de dissociation, n'est-ce pas ? Alors, juste pour vérifier un peu, si vous avez retenu, est-ce que quelqu'un pourrait me dire les 4 G qui ont été évoqués ? Alors, levez la main comme ça, je... Alors, vas-y. Mais tu regardes pas dans ton calepin, là. Ah, ben, il faut pas tricher. Alors, comme tu allais tricher... Attends, d'abord, je vais donner la parole à la petite qui est derrière toi. Ah, bien fort, bien fort. 1, G. Il en manque 3. 4 G. C'est comme la connexion Internet, hein. Ah, alors, vas-y. Grandir dans notre relation avec Dieu. Gagner des âmes. Oui. Garder la saine doctrine. Voilà, super. Ce matin, nous avons vu, au travers d'une parabole qui n'est pas la plus simple, combien le Seigneur ne se laisse pas berner par les apparences. Et pourquoi il ne se laisse pas berner par les apparences ? Parce que l'Église est un contenant et que lui-même en est le contenu. D'accord ? Et donc, maintenant, j'aimerais voir avec vous cet après-midi, cette déclaration, Jésus va-t-il à l'Église ? Alors, cette petite question est présentée de façon, d'une façon un petit peu provocante, hein, dans le but d'aider celles et ceux qui pensent qu'il n'est plus ou pas utile de vivre l'Église. Notez, chers frères, que je n'ai pas dit fréquenter l'Église, j'ai dit vivre l'Église. Il y a là une différence. Les raisons que nous évoquerons sont multiples, mais sont-elles justes devant Dieu ? L'engagement de certaines personnes dans l'Église est sporadique. La communion entre les frères est inexistante. Le service pour répandre l'Évangile en pâtit. La connaissance de la vérité s'effrite. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent disperser le troupeau de Dieu ? Il y en a plusieurs, des plus ou moins honorables, mais quoi qu'il en soit, je le répète, ce n'est pas une fréquentation que je suis en train d'évoquer, mais d'une vie. Forcément, comme dans un couple, lorsqu'il y a relation, il y a fréquentation. Donc, on ne recherche pas à vivre une fréquentation, on cherche à vivre une relation. Mais quand on vit une relation, forcément, ça sous-entend une fréquentation. Alors, quelles seraient les raisons pour ne pas fréquenter l'Église ? La persécution ? Si nous étions persécutés dans notre Église, est-ce que ça serait dans notre pays ? Est-ce que ça serait une bonne raison pour ne pas aller à l'Église ? Tertullien disait « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». Aujourd'hui encore, il y a des pays où des frères et sœurs sont persécutés. Est-ce que ça les empêche de vivre l'Église ? Franchement, s'il y avait une raison valable et honorable que j'aimerais mettre sur la table, je dirais, si tu risques ta vie pour aller à l'Église, je pourrais comprendre que tu hésites. Mais l'histoire nous témoigne que même la persécution ne suffit pas à empêcher le croyant de se réunir avec ses frères et sœurs. La santé. Il y a certaines personnes qui, à cause de leur santé, sont dans l'incapacité d'aller à l'église. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Quand je visite des personnes qui sont à l'hôpital et qui ne peuvent pas bouger de là où elles sont, elles me disent oh, « Si tu savais, Luciano, combien ça me manque, les frères et sœurs, d'avoir de leurs nouvelles. » Ils m'envoient des textos, ils me visitent, ils disent « Mais combien ça me manque et que j'aimerais tellement être avec eux. » Donc ces personnes-là, si elles le pouvaient, elles seraient bel et bien avec leurs frères et sœurs. La vieillesse. Alors, quand on a un certain âge, vous savez comment les choses se vivent, notre doyenne à l'église a 104 ans. Alors, 104 ans, ça devient compliqué pour aller à l'église et fréquenter l'église. Mais est-ce que sa relation avec l'église est inexistante? Non. Et dans notre église, nous avons, vous savez, on a créé un culte en direct sur le web pour ces personnes-là. Et nous avons remarqué que certaines autres personnes ne venaient pas des fois au culte par fatigue pour X raisons. Et nous avons précisé, on tient à préciser que le culte en direct n'est pas pour que vous puissiez vous le vivre en direct dans votre lit avec le petit déjeuner, mais c'est pour des personnes âgées qui n'ont pas le choix. D'accord ? Que les choses soient bien claires. Donc, vous voyez, ces trois raisons pourraient être des raisons, j'ai envie de dire, entendables. Et, quoique, vous avez vu que même ces raisons, quand on vit une réalité avec Christ, on a envie de vivre l'Église. Alors, quelle autre raison priverait vos frères et sœurs de votre présence ? L'Église n'est-elle pas une idée de Dieu ? Le pasteur n'est-il pas une image du berger ? Pourquoi l'Église du Christ est-elle si négligée ? Où est l'erreur ? Peut-être parce que beaucoup recherchent un évangile homéopathique, c'est-à-dire de la facilité, qui donne mais qui ne réclame rien. Je vais à l'église le dimanche pour faire mon shopping spirituel. Pas besoin de m'engager. La vérité m'embarrasse. On me dit des choses, on me reprend, on me fait la morale. Vous savez, Voltaire disait, l'homme préfère des louanges qui les tuent que des vérités qui les sauvent. Jésus dit, moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le Seigneur donne souvent cette image de la construction. Est-ce cela l'église de Jésus, que Jésus est venu fonder ? Mais que signifie le terme église ? Est-ce que nous pourrions définir ce mot ? Est-ce que quelques personnes parmi vous pourraient me dire la définition du mot église ? Oui. Assemblée. Assemblée. Alors moi, j'aime qu'on soit précis. Alors, c'est pas faux, c'est juste, mais vraiment précis. Que veut dire le mot ecclésia, hein, qui donne le mot église d'une manière précise ? Oui.
Assemblée appelée hors d'eux.
Oui. Quelqu'un a une autre définition à me donner ? Baptiste ? Ah, une bâtisse, pardon. Oui. Alors, l'église dans le sens corps vivant, c'est pas un bâtiment, on est bien d'accord. Hein. Alors, le mot ecclésia peut se comprendre de deux manières. La première manière, c'est en suivant, on va dire, l'étymologie. C'est ce qui a été donné, ec. Or, hein, de extraire, clésia appelé, donc l'église était appelée hors d'eux, hors du monde en l'occurrence. J'aime pas trop cette définition, même si c'est pas faux de dire que l'église est appelée hors du monde, mais ecclésia peut se définir non pas par son étymologie, mais par son usage. Et dans son usage, ecclésia signifie, c'est un terme politique qui était utilisé, c'est l'assemblée de ceux qui sont élus. L'Assemblée nationale, hein, à Paris, ce sont une ecclésia. C'est une convocation d'ecclésia, c'est l'Assemblée nationale. C'est un terme politique. Et d'ailleurs, c'est étonnant que la Bible utilise un mot politique pour des activités
on va dire, cultuel. Parce qu'il existait un mot en grec pour parler des rassemblements religieux. Thiassos était le terme qu'il fallait prendre. Pourquoi j'aime pas l'aspect étymologique ? Parce qu'il peut être dangereux. Vous savez, je donne juste un exemple. Pédophile. Si je faisais l'étymologie de pédophile, pédo, paedia, enfant, philos, aimé. Donc, un pédophile, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Ah ! On sonne rouge, c'est faux. Donc, l'étymologie a ses limites. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui sont élus, de ceux qui sont enfants de Dieu. C'est une convocation. Les sénateurs sont convoqués. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. Ils doivent se rassembler. Ce n'est pas s'ils veulent se rassembler, ils doivent se rassembler. Et on a besoin de ce rassemblement. J'aimerais vous partager encore une image. Vous savez, dans la Rome antique, les chrétiens qui étaient persécutés se réunissaient dans les catacombes. Et un historien nous raconte que chaque chrétien venait avec une petite torche. Et quand il se retrouvait dans des crevasses, eh ben, toutes ces torches-là, ensemble, illuminaient toutes ces grandes cavités qui étaient là et toute la pièce était illuminée. Et cette image est belle parce qu'elle représente vraiment ce qu'est l'Église. Chaque petite lumière cumulée l'une à l'autre fait la lumière. D'accord ? La naissance de l'Église eut lieu au moment mentionné dans Actes 2. C'est ce que nous vivons, nous vivons un week-end de Pentecôte. C'est à la Pentecôte que l'Église va naître. Et sa construction aura son terme lorsque Jésus-Christ va revenir. Toutefois, bon nombre de choses peuvent être découvertes concernant Jésus-Christ et son assemblée par l'entremise de la typologie de l'Ancien Testament. Je ne suis pas en train de dire, qu'on soit bien clair, que l'Église existait dans l'Ancien Testament. Je dis juste qu'il y a une typologie dans l'Ancien Testament qui nous aide et qui illustre les vérités qui sont expliquées dans le Nouveau Testament. Et donc, à la lumière du Nouveau Testament, nous pouvons constater que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà un quelque chose qui illustrait l'Église. Dans Lévitique 26, verset 12, écoutez bien ce verset, « Je marcherai au milieu de vous, pour vous je serai Dieu, et pour moi vous serez mon peuple. » Cette déclaration que vous trouvez dans le Lévitique, vous l'entendrez aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, et tout le long de l'Ancien Testament, vous entendrez cette réalité, « Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, et j'habiterai au milieu de vous. » Et pendant toute la Bible, vous avez comme un refrain, une cloche qui sonne avec ce refrain qui dit « Je suis ton Dieu, tu es mon peuple et j'habiterai au milieu de toi. » Est-ce que Jésus est au milieu de nous aujourd'hui ? Êtes-vous le peuple de Dieu ? Oui. Est-ce qu'il est au milieu de nous aujourd'hui ? J'ai mis une chaise ici. Nous avons un invité. Qui est-il d'après vous ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, là où deux sont réunis, je serai au milieu d'eux. Jésus va-t-il à l'Église ? Mais depuis toujours, ça a été le sentiment profond de notre Dieu que d'habiter au milieu de son peuple. Avez-vous déjà vu une image du tabernacle ? Une reproduction ? Si vous avez vu cette image, vous avez pu constater qu'il y a le tabernacle. Au-dessus de ce tabernacle, il y a comme une colonne qu'on appelle la Shekina. C'est la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? C'est ce qui illustre la gloire de Dieu. Et puis tout autour, qu'est-ce qu'il y a ? Les 12 tribus d'Israël. Mais quand vous regardez cette photo, mais quelle préfiguration de l'Église ! Je suis ton Dieu, tu seras mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Quelle déclaration forte nous fait le Seigneur dès l'Ancien Testament. Et ça a toujours été le sens profond de notre Dieu. Lorsque Jésus rentre à Jérusalem, que va-t-il dire ? Il va pleurer et il va dire « Jérusalem, Combien de fois ai-je voulu te réunir comme une poule veut réunir ses poussins? Est-ce que vous vous rendez compte que notre Dieu souffre à en pleurer de voir ses enfants ne pas être réunis? Je suis père, j'ai 3 enfants. Ils ont l'aîné a 14 ans, il va avoir 15 ans. Et aujourd'hui déjà, je me préoccupe avec mon épouse de savoir un jour, est-ce que nous serons réunis ou est-ce qu'on sera dispersés? Est-ce qu'on sera une famille unie? Est-ce qu'on sera un? Mon rêve, ma prière devant mon Dieu, Seigneur, qu'on puisse être un, que mes enfants, que ma fille, mes fils, leur belle-fille, mon gendre, un jour plus tard, puisse être un devant toi. Je comprends la volonté de notre Dieu. Jésus va-t-il à l'église? Oui, comme un père que je suis, qui désire avoir pleinement ses enfants auprès de lui. Mais Jésus a la même volonté et le même désir de vous voir proches les uns des autres. Que se passe-t-il concrètement? Nous avons du mal à nous supporter. Parce que vous êtes de cultures différentes, parce que vous êtes d'éducation différente, parce que vous avez un caractère de cochon, parce que vous êtes ponctuel et l'autre, il n'est pas ponctuel. Et alors, quand on regarde tout cela, c'est un cocktail explosif. Toute cette diversité, mais comment ça peut marcher ensemble ? La seule manière qui fait que nous puissions marcher d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée, c'est lorsque nous avons comme unité notre Sauveur Jésus-Christ. Ce qui nous rassemble, c'est Christ et Christ seul. Et s'il n'y a pas Christ qui est la motivation première, ça va devenir compliqué la vie d'église. Vous comprenez? Je suis ton Dieu, vous êtes mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Et cette déclaration doit être ma motivation. Alors, s'il y a cette réalité, si je sais que lorsque je vais à l'église, si là, ici présent, il y a mon Sauveur, il y a mon Seigneur qui est présent, je parle avec la conscience de savoir que Jésus m'entend. Avec ce désir que Jésus agit dans les cœurs, en utilisant la parole, sa parole, pour agir et changer le cœur de chacun. Alors je crois que lorsque j'ai un frère ou une sœur qui me sanctifie, comme on dit, par son comportement, je l'accepte de la main de Dieu, parce que Dieu l'a permis pour que je puisse grandir. Jésus va à l'église. Il va à l'église parce que l'église est le temple de Dieu. Il y a plusieurs images qui sont utilisées pour définir l'Église, plusieurs métaphores. Est-ce que vous connaissez une métaphore, une image, une illustration pour définir l'Église? Pourriez-vous m'en dire quelques-unes? Le corps de Christ. Et quand on parle du corps de Christ, l'idée qu'on veut donner du corps de Christ, c'est pour parler de cette unité. La main ne peut pas se dissocier du bras, ni la tête ne peut rien faire sans le cou, et ainsi de suite. Donc, cette métaphore est là pour nous mettre en avant notre unité. Nous sommes un. Y a-t-il une autre métaphore? L'épouse. Mais quand on prend l'exemple d'un époux et d'une épouse, quelle est la première idée qui ressort? C'est l'intimité. Dans un couple, l'un et l'autre se connaissent parfaitement. Les qualités, les défauts, le quotidien. Et Jésus veut vivre avec son Église une intimité. Vous voyez, on pourrait continuer sur ces métaphores-là. Mais une des métaphores que la Bible prend, c'est le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans 1 Corinthiens 3,9, il est dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu ». L'édifice de Dieu. Ce verset s'adresse aux responsables, parce qu'il est dit, nous sommes ouvriers, vous êtes le champ, vous êtes l'édifice. Donc il s'adresse à tous ceux qui sont pasteurs, missionnaires, qui sont censés être ces artisans pour poser les fondements. Et certains bâtissent avec du bois, du foin, du chaume, et d'autres avec des pierres précieuses, de l'argent et de l'or. La Bible nous dit qu'il y a des ouvriers plus ou moins brillants. Mais l'Église est le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça vous rappelle quelque chose ? Le même refrain que dans Lévitique et que vous entendrez jusque dans l'Apocalypse. Je suis votre Dieu. Vous êtes mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Quel engagement profond nous fait Dieu, et il habitera au milieu de nous aujourd'hui au travers de son Fils Jésus-Christ. Mais lorsqu'on parle du temple de Dieu, le temple se caractérise par deux traits principaux. La présence de Dieu dans le temple, c'était cette fameuse Shekinah, hein, et la sainteté. Le temple, c'est le lieu de la présence divine, c'est la maison de Dieu. Et la notion de présence doit être comprise de manière analogique. Ce qui signifie qu'il y a plusieurs modalités de présence. On peut être présent de différentes manières. Puisque être présent finalement, c'est se donner présent. Vous êtes présent, mais vous pourriez être absent. Vos idées pourraient être ailleurs. Vous pourriez être en train de vous dire, ce soir il y a un match de ligue ou je ne sais pas trop quoi, quel va être le résultat ou j'en sais rien. Vous êtes présent, mais vous êtes absent. Donc vous voyez, la présence, c'est la manière dont on se donne dans sa présence aussi. Par exemple, Dieu est omniprésent. Tu nous parles de quoi ? Que Jésus est présent à l'Église, mais il est omniprésent. Il est partout, en tout temps et tout le temps. C'est, tu enfonces une porte ouverte. Non. En lui, nous pouvons dire que nous avons la vie, le mouvement et l'être, la vie physique et le souffle. Et Dieu est présent partout. Mais Dieu est différemment présent selon les circonstances. Il est présent dans chaque être vivant, d'une certaine manière, puisqu'il est le Créateur. Il est omniprésent partout. Mais lorsqu'on parle de l'Église, il manifeste une présence particulière. Quelque chose de plus. Dans l'Église, Dieu est présent comme dans son peuple. Et la métaphore du temple sert bien à exprimer cette présence. Lorsque vous avez cette image du tabernacle avec cette Shekinah, Dieu est omniprésent. Pourquoi Dieu a mis une Shekinah, une colonne de feu ou une colonne de nuée ? Pourquoi a-t-il voulu indiquer précisément sa présence alors qu'il est omniprésent ? Il y a quelque chose de plus qui nous échappe. La sainteté de Dieu. Le temple de Dieu doit être saint. C'est un lieu saint. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 17. Lorsqu'on dit que nous sommes, au pluriel, le temple de Dieu, c'est une façon de nous dire, soyez saints. Dieu est très saint dans la mesure où il s'appartient totalement à lui-même. La sainteté, c'est le fait d'appartenir à Dieu et par conséquent, être séparé de ce qui est étranger. Attendons-nous le mariage pour vivre une intimité ? Décidons-nous de dire la vérité quoi qu'il en coûte ? Vivons-nous d'abord nos loisirs et nos engagements avec Dieu ? Avons-nous à cœur de pardonner ceux qui nous offensent ? Sommes-nous disposés à respecter l'ordre créationnel de Dieu ? Soumettons-nous aux responsables que Dieu a établis ? Restons-nous honnêtes lorsqu'on est en train de perdre de l'argent ? Habillons-nous en respectant les valeurs bibliques ou pas ? C'est ça la sainteté.
Une sœur s'est approchée un jour d'une autre sœur en lui disant
« Est-ce que tu te souviens l'année dernière le mal que le frère t'a fait ?» Et elle a répondu « Non, je ne m'en souviens pas. Mais si, il avait dit des choses horribles sur toi. » Et cette sœur a répondu à cette deuxième sœur en lui disant « Écoute-moi bien, je ne me souviens pas que cette sœur m'ait offensée. Par contre, je me souviens parfaitement l'avoir oubliée. » Nos vies sont faites de choix. Et dans l'Église, la présence de Dieu devrait suffire à nous aider à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Non pas parce que je le mérite. Lorsque vous faites quelque chose, si ça peut vous aider, dites au nom de Jésus-Christ. Ça m'a aidé dans ma vie. Lorsque j'ai débuté mon ministère, il y a une chose que je ne supportais pas, que je ne supporte toujours pas, mais voilà, c'est l'odeur des hôpitaux. Quand je rentre dans un hôpital, il y a une odeur qui m'indispose. Et je me souviens que le pasteur qui était avant moi, mon prédécesseur, Gérard Pérez pour ceux qui le connaissent, on était en train d'entrer dans un hôpital et je lui disais, tu sais Gérard, moi les hôpitaux c'est un truc, c'est pas mon truc, hein, je te le dis tout de suite. Moi, déjà, même quand je vois du sang ou quelque chose comme ça, je me sens pas bien. C'est pas l'odeur et tout, tu vois, c'est vraiment pas... Moi, j'attendais qu'ils me disent, non, mais je comprends, écoute, moi, je garde ça, toi, tu feras d'autres choses. Et alors, j'ai cru qu'ils se moquaient de moi, parce que, mais c'est, apparemment, c'est vrai. Ils me disaient, mais tu sais, mais c'est incroyable, moi aussi, ça m'indispose les hôpitaux. Je me suis dit, ils se moquent de moi, là, ou... Et je me souviendrai toujours de cet homme dans cette chambre qui... Ça sentait pas bon, hein. Il me dit, pourriez me servir un verre à boire? Or, pour vous remettre dans le contexte, moi, j'ouvre les portes avec les coudes, hein, parce que je crois qu'il y a des microbes partout, donc je le pousse-mousse, tous les coins de pousse-mousse, j'en remets partout, j'ai une petite phobie là-dessus. Moi, prendre le verre là, et prendre le monsieur, le soulever, lui donner à boire, mais même pas en rêve, j'ai appuyé sur la sonnette 10 fois, j'ai dit, l'infirmière va venir, vous inquiétez pas, mais personne venait. Et à un moment, je me suis dit, Seigneur, je le fais en ton nom. Parce que si c'était pour cet homme, je n'aurais jamais fait ça. Luciano, sans Dieu, n'aurait pas fait ça. Mais là, je le fais en ton nom. Et la pensée que j'ai eue, heureux, lorsque vous avez donné à boire à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur. Vous vous rendez compte? Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, et j'habiterai au milieu de vous. N'oubliez jamais cela. Au temple, on s'associe aussi l'image du sacrifice de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce sont nos corps qui se donnent en sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans le temple, on offrait des animaux en sacrifice. Dans le temple nouveau que nous constituons, nous, l'Église, ce sont nos vies que nous offrons par notre consécration à Dieu. Alors, quand on réalise combien Dieu est présent au travers de son Fils, ma vie tout entière a un sens. Victor Hugo a écrit « Les Misérables ». Et dans cette scène, vous avez ce fameux Marius qui va se marier avec Cosette, et un jour il est dans les barricades, ce Marius n'est pas trop aimé par Jean Valjean, mais il est blessé. Et dans le roman, Jean Valjean va sauver Marius, le porter sur ses épaules dans les égouts de Paris, l'emmener à un hôpital, et seulement des années après, Marius découvre que Jean Valjean est ce fameux sauveur qu'il a sauvé des barricades alors qu'il allait mourir. Jean Valjean est sur son lit de mort et Marius arrive et il dit cette phrase que j'aimerais reprendre pour notre sauveur. Ma vie tout entière au pied de cet homme sera trop peu. Jean Valjean a porté sur ses épaules Marius au travers des obstacles de la Révolution française pour le sauver. Jésus-Christ a porté tes péchés au travers d'une multitude d'obstacles pour que tu puisses être sauvé toi aussi. Et dans ton cœur devrait habiter exactement la même pensée que celle de Marius. Ma vie tout entière, au pied de ta croix, Seigneur, ce sera trop peu. Alors, est-ce que Jésus va à l'église? J'ai envie de dire qu'il y est tout le temps et il vous attend. Il est là. Et chaque fois, vous savez, dans le peuple d'Israël, dans les Lévitiques, quand le peuple se rassemblait, il y a une expression que j'aime beaucoup. Il est dit, c'était une sainte convocation. Dieu nous invite à nous rassembler parce qu'il nous attend. Je suis ton Dieu, vous êtes mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Que cela puisse vraiment nous motiver à regarder l'Église d'un autre point de vue. Héraclite disait, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Et c'est vrai, l'Église ressemble, l'Église est quelque chose qui est en mouvement, c'est pas quelque chose de fixe, ça bouge, ça avance, les gens évoluent, ils grandissent, c'est un corps vivant. Mais il y a une chose qui ne bougera jamais, mes amis, jamais, c'est la fidélité de notre Seigneur. Et je terminerai avec ce verset dans Timothée. Il demeure fidèle, même si vous êtes infidèle. Amen.